Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Que faut-il faire pour encourager les jeunes Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat visant la protection des forêts du bassin du Congo? Nous abordons ce sujet avec Alfred Ntumba. Il est directeur général d'EnviroNews, qui est un organe de presse spécialisé sur les questions de l'environnement et développement durable. Alfred, bonjour. Bienvenue dans Okapi Service.
Merci.
Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94 et nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Tati Mapougou, c'est moi qui présente ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Sarah Soumbela s'occupe de la réalisation et Jean-Noël Mokondo est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service.
Au Capi Métissage, fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Bienvenue dans Capi Service, les magazines de fête société de Radio Capi. L'importance croissante de la notion de la conservation de l'environnement et du développement durable a fait émerger de nouveaux types d'entrepreneuriat en ce qui concerne notamment l'assainissement du milieu, les recyclages et autres métiers verts à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, indiquent les spécialistes. Selon nos sources, s'élancer dans l'entrepreneuriat dans le secteur de l'écologie va contribuer d'une part à la création d'emplois des jeunes et à la protection des forêts du bassin du Congo. Que faut-il faire pour encourager le jeune Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat visant la création des emplois verts et la protection des forêts du bassin du Congo? Nous en parlons avec Alfred Ntumba. Nous rappelons qu'il est directeur général d'EnviroNews, qui est un groupe de presse qui travaille, qui ne traite uniquement que les informations à caractère environnemental. Bonjour Alfred.
Bonjour Tati.
Vous confirmez, vous êtes aussi un jeune entrepreneur dans le secteur environnemental?
Affirmatif.
Oui. Dites-nous, est-ce que les métiers verts sont prometteurs ici en RDC?
Vous savez, les métiers verts sont très prometteurs dans la mesure où notre pays, c'est un pays d'abord environnemental, parce que quand vous regardez la RDC, c'est 65% des forêts du bassin du Congo. Ce n'est pas quelque chose de moindre. C'est déjà une très grande répartition qui se positionne comme étant un élément fournisseur d'opportunités d'emploi, fournisseur d'opportunités pour les jeunes. Et du coup, je peux dire que les métiers verts sont vraiment des opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes comme moi pour pouvoir s'y lancer et gagner leur vie.
Oui, mais vous êtes journaliste de carrière. Beaucoup de jeunes comme vous se lancent plutôt en journalisme politique et autres. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous focaliser uniquement dans les volets environnement, développement durable?
Voilà, c'est déjà un très bon exemple que moi j'ai donné pour montrer aux jeunes qu'il est possible d'entreprendre dans le domaine de l'environnement et gagner sa vie. Vous savez, j'ai fait les études à l'IFASIC comme les autres journalistes également. Et j'ai fait le journalisme politique intérieur. Mais à la fin de mes études en cycle de licence, je me suis dit, je vais faire autre chose que ce que les autres font. Pourquoi? Parce que je me dis, tout le monde qui a fini avec moi s'était lancé les défis de devenir journaliste politique parce que la politique paye mieux. Mais par ailleurs, j'ai constaté que plus de 10 ans ou bien 9 ans après, donc ceux qui sont allés faire la politique parce que c'était leur vision, ne sont pas aussi meilleurs que moi. Donc, je constate par ailleurs que je suis peut-être plus épanoui dans mon domaine de l'environnement que ceux qui font la politique intérieure ou extérieure. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé au départ? C'était le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais faire quelque chose d'un peu différent de ce que les autres font. Quand vous regardez les médias aujourd'hui, que ce soit les médias, la presse écrite, la presse audiovisuelle, que ce soit la radio, plus on est tous orientés vers la culture, vers la politique, vers les sports. Voilà. Et c'est ce qui faisait un peu notoriété des journalistes lorsque tu es journaliste politique et que tu reçois des invités politiques de haut rang, on considère que tu es plus grand que les autres journalistes. Mmh. Alors moi, je voudrais me faire un petit journaliste, mais qui fait autre chose. Voilà, c'est ce qui a décidé mon destin en ce moment-là, en 2013. J'ai lancé EnviroNews, qui est un média, comme vous l'avez présenté, un média totalement orienté à l'environnement. J'avais trouvé aussi d'autres journalistes qui faisaient ça, mais j'avais constaté quand même que c'est des gens qui s'est limités, qui limitaient l'environnement...
Au factuel,
voilà. Donc, beaucoup plus les questions qui touchent à l'environnement immédiat, donc la
sélection... À l'actualité chaude,
exact.
Tout ça, voilà.
Alors moi, je me suis dit, mais je peux faire aussi mieux que ce que les autres font. Alors, j'ai étendu les champs de l'exploration pour mes informations. J'ai commencé à aborder les questions de la biodiversité, les questions des forêts, les questions de l'énergie, bref, toutes les questions qui touchent à l'environnement, y compris aussi les questions de santé.
Oui, mais en même temps aussi, nous parlons de la promotion de métiers verts. Ici, généralement, à Kinshasa, par exemple, les gens qui se lancent dans ces genres de métiers sont des gens qui font l'assainissement, des gens qui sont dans les curages des caniveaux, des gens qui sont dans la transformation des déchets plastiques, alors qu'il y a aussi d'autres opportunités, d'autres secteurs qui sont inexplorés.
Exactement. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple ce que la RED Plus nous offre comme opportunité d'affaires aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, la RDC est le premier pays qu'on peut considérer comme premier pays qui a exploré les opportunités qu'offre la RED. Donc, ces mécanismes de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts est aujourd'hui une aubaine pour les emplois. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes quinois pensent que avoir un travail vert ou un métier vert, c'est recycler les déchets. Oui, c'est bien parce que nous avons devant nous un vrai problème qu'il faut résoudre, c'est les déchets plastiques. Nous encourageons les jeunes à les faire, mais il faut explorer. Donc, l'aspect est assez large qu'il faut peut-être explorer ça, aller au-delà justement de l'assainissement, de la salubrité et du recyclage. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, dans les cadres, par exemple, dans le cadre de la foresterie communautaire, on a besoin des cartographes. On a besoin des gens qui peuvent faire la cartographie des forêts des communautés. Et ça, c'est un métier.
Des paysagistes, des aménagistes.
Exactement. Mmh. Nous avons besoin des aménagistes, nous avons besoin des paysagistes, nous avons besoin de ceux qui peuvent faire les inventaires, par exemple, des ressources qui se retrouvent dans les...
Botanistes.
Il y a beaucoup de métiers qui se développent aujourd'hui à travers les différents mécanismes qui sont mis en place. Donc, il y a des opportunités qui se présentent aux jeunes.
Comment promouvoir les métiers verts ici en RDC, si ces sujets vous intéressent? Appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Nous allons cette fois-ci au standard pour donner la parole au premier auditeur. Hein. Il appelle depuis la ville de Kolwezi. Son nom c'est Jean-Claude Mpoyi. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Que faut-il faire pour encourager les jeunes Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat visant la protection des forêts du bassin du Congo, d'après vous?
Merci beaucoup d'intervenir à ce point en tant qu'économiste de formation. Pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat visant la protection du Congo, l'État doit faire appel aux jeunes qui déjà leur projet dans ces secteurs, aussi analyser les coûts et les opportunités de chaque projet, si c'est rentable ou pas. Et puis, l'État doit soutenir financièrement, c'est-à-dire il doit financer, après l'évaluation, l'État doit financer ses projets. Pour deux causes. Premièrement, c'est la cause économique. Pourquoi? Parce que cela permettra la diminution du taux de chômage, car ces entreprises qui seront créées vont embaucher d'autres jeunes et vous allez constater que le coût national sera boosté. Le deuxième point, c'est l'environnement. C'est-à-dire parce que ces plastiques sont des salutés, en fait, qui, s'ils ne sont pas entretenus, vont créer des maladies au sein de la population et par là que leurs assainissements est nécessaire pour la transformation en biens économiques. Après cela, l'État, bien sûr, le fonctionnement et l'affectation des ressources de ces entreprises nouvellement créées doit être suivi pour éviter la faillite, pour éviter certaines conséquences comme la faillite avant même l'exploitation ou la production, comme l'avait fait un gouverneur dont je ne peux pas citer le nom. Il a donné l'argent aux jeunes entrepreneurs pour aller exercer leurs activités, mais ces jeunes ici ont pris l'argent pour aller se marier, les autres ont bouffé en faisant des ambiances et juste là, les autres ont pris même la ville et jusque là, on n'a pas vu le fruit de l'argent dont le gouverneur avait donné.
Jean-Claude, dites-nous, qu'est-ce qui est fait de concret dans les cas d'entrepreneuriat dans le domaine des métiers verts à Colouzi?
L'entrepreneuriat, monsieur, vous avez dit?
Je dis ceci, vous êtes à Colouzi, est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui créent des petites entreprises dans le domaine de l'assainissement, de la conservation de la nature?
Effectivement, monsieur le journaliste, ils sont là encore très nombreux même, parce que moi, quand je vous parle là, je suis un étudiant et aussi un jeune entrepreneur. Je vous dis, il y a des jeunes qui ont des projets, mais ces jeunes ici n'ont pas de financement. Ils ne savent pas où trouver les financements, parce que moi, je peux vous donner mon cas. J'ai un projet de l'assainissement. Je l'avais présenté une fois dans une conférence à l'université d'écologie. J'ai eu même des partenaires, mais les partenaires là qui ne sont pas actifs, je vous prouve que les jeunes ont des projets qui sont tellement rentables dans le secteur d'assainissement des plastiques, comme vous venez de le dire, mais ces jeunes ici n'ont pas où trouver les financements, ou ils n'ont pas qui ou aller pour trouver les financements afin de lancer leurs entreprises, afin de booster l'économie. Parce que si, par exemple, nous dépendons effectivement de notre pays, nous créons nos propres activités, nous créons nos propres emplois, vous allez constater que dans les jours à venir, notre économie sera tellement forte, notre économie sera dure, parce que nous allons nous supporter nous-mêmes et nous allons consommer localement au lieu de faire appel aux services ou aux entreprises extérieures, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup Jean-Claude. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Colouzi. Cette fois-ci, allons à Arou pour donner la parole à Bienvenue, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Tati, bonjour Alfred Toumba. Juste, je voulais intervenir par rapport au point de l'encouragement de nous, les jeunes actuels, pour protéger aussi le bassin du Congo. Ma première intervention sera juste par rapport à la politique encourageant des prix. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons dans notre communauté, il y a assez de problèmes. Les jeunes ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Mais il y a beaucoup de nos populations qui sont en train de souffrir par rapport aux malnutritions, ainsi de suite. Mais c'est peut-être à nous, les jeunes, si l'État avait une politique de nous encourager pour les prix et aussi à faire en sorte qu'il y ait des formations agricoles, l'État aussi puisse faciliter les jeunes à accès facile pour les intrants. Je vais citer l'exemple de semences, de matériel, ça peut aussi aider aujourd'hui. Mais si nous voyons aujourd'hui, nous les jeunes, on ne veut plus se lancer dans l'entrepreneuriat agricole pour la protection de l'environnement. Nous voulons juste aller plus dans des bureaux ou dans l'entrepreneuriat. Bon, ici, quel entrepreneuriat, bon, je ne sais pas.
Bienvenue, dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui est fait de concret dans le secteur entrepreneurial, environnemental, au niveau de la ville, de la cité d'Arou?
Bon, moi, pour le moment, je suis encore étudiant en troisième année de graduation.
Oui, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui s'essayent dans le secteur?
Bon, pas absolument, hein. Il n'y a pas assez de jeunes qui se lancent. Il y a seulement les jeunes qui se lancent dans la entrepreneuriat de potager, ainsi de suite. Mais plus, ils veulent seulement attendre qu'un jour l'État va créer un emploi pour qu'ils gagnent.
Merci beaucoup, bienvenue. Nous rappelons que c'est depuis Arou que vous avez intervenu. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à Andy Elonga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la thématique débattue?
Merci. Moi, j'aimerais m'atteler d'abord sur la prise des considérations des jeunes Congolais par le politicien. Vous allez vous rendre compte que ce sont les hommes politiques qui amène les jeunes à ne pas croire qu'ils peuvent faire développer vraiment ces pays que nous tous égorgeons vraiment la grande participation. Les politiciens font voir aux jeunes congolais que le seul millier qu'il faut investir, c'est la politique. C'est la création, l'adhésion des partis politiques. C'est par là que toutes les idées des jeunes sont visées dans la politique. Donc, nous avons encore des espaces vides dans notre pays qui souffrent d'exploitation. Moi, qu'il faut pas, je suis victime de ce genre de choses. Alors, la politique congolaise devrait d'abord faire voir aux jeunes que le seul moyen pour être autonome, être employeur des employés, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Exploitons d'abord ce que nous avons. Puisque Dieu n'a changé rien dans le chef d'un peuple. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre conscience de ce que nous avons, de ce que Dieu nous a donné.
Oui, Andy, s'il vous plaît.
Ce sont les politiciens qui nous amènent à croire que le seul moyen pour développer notre pays, c'est faire la politique, être partisan ou militant d'un parti politique, aussi longtemps que nous négligeons des activités agro-pastorales et aussi agro-industrielles.
Dites-nous, Andy. Andy, s'il vous plaît, est-ce que vous, personnellement, ça vous intéresse de vous lancer dans les créneaux là, dans les créneaux entrepreneuriat, dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo?
Effectivement, je suis de qui pense ainsi.
Merci beaucoup Andy. Nous rappelons que c'est depuis Kinshasa que vous avez pris la parole. Bernard, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Dites-nous, Bernard, à Lubumbashi, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'essayent dans le cadre des projets liés à la conservation de la nature?
Bien sûr, mais la première question que je voulais un peu poser, c'est... Pourquoi protéger le bassin? Je crois que c'est pour lutter contre la pollution.
Et le changement climatique, oui.
Oui, alors, pour moi, il serait mieux d'attaquer d'abord les pollueurs, les gens qui polluent plus le monde que ceux qui conservent. Parce que c'est comme qui dirait, on attend à ce qu'on soit malade pour qu'on puisse suivre les médicaments. Et or, il faut d'abord prévenir qu'on ne soit pas qu'on puisse pas tomber malade au lieu d'attendre à ce qu'on soit malade pour chercher les produits. Je crois qu'il serait mieux d'abord de commencer par éduquer les nations pollueurs du monde, parce que l'Afrique ne pollue que 3%. Ceux qui polluent 97% continuent à polluer, mais nous nous battons pour conserver leur pollution. Je crois que là c'est injuste. Et ils continuent à se taper l'argent sur nos dos, mais nous continuons à lutter contre la pollution. Voilà un peu ce qui m'étonne sur ce débat.
Merci beaucoup Bernard, et nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous avez pris la parole. Alfred, comment répondez-vous à chaud à M. Bernard?
Monsieur Bernard, merci pour votre intervention. Je pense que vous avez raison, nous devons effectivement nous attaquer à ceux qui polluent. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs le but même de l'existence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des négociations qui sont menées entre les différents États pour essayer de voir comment compenser les efforts de chaque pays qui conserve par exemple ses forêts. Voilà pourquoi en 2015, à Paris, il y a eu signature d'un accord qu'on a appelé l'accord de Paris. L'accord auquel la RDC est aussi participante prenante. Et du coup, cet accord prévoyait en réalité que les États pollueurs que vous avez évoqués ici puissent mettre à la disposition des États du Sud, donc c'est-à-dire les États non pollueurs, une somme de 100 milliards de dollars chaque année. Et cet argent devrait être gardé dans un fonds qu'on avait appelé le fonds vert climat. Mais faut malheureusement, de 2015 jusqu'à maintenant, on n'est même pas encore arrivé à 100 milliards de dollars. Et pourtant, il était prévu que ces États, ces nations pollueurs puissent apporter du lucre pour permettre à ce que les États comme la RDC qui gardent ces forêts puissent tirer donc profit de cet argent. Malheureusement, ce n'est pas fait. Mais est-ce pour autant que nous n'allons pas faire notre part à nous? Et c'est pour autant que nous n'allons pas promouvoir les métiers qui peuvent, en attendant que nous ayons accès à cet argent, les métiers qui peuvent faire que les jeunes puissent réellement tirer profit. Voilà, ça c'est à ce niveau-là que nous pouvons échanger et voir qu'est-ce qu'il faut donc faire. C'est pour cela là que nous sommes là.
Oui, Alfred, il y a Jean-Claude Mpoy qui dit, il y a beaucoup de jeunes hein, qui sont porteurs des projets, mais malheureusement, les financements font défaut. Qu'est-ce que vous leur suggérez?
Vous savez, Jean-Claude, merci pour cette intervention. Vous avez totalement raison. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas vraiment une politique d'encouragement des jeunes entrepreneurs. Je suis moi-même victime de cela, parce que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2013, je n'ai jamais reçu même pas un franc du gouvernement congolais. Allez-y comprendre que j'ai une maison de presse qui engage une vingtaine de personnes, des journalistes, des monteurs, des caméramans, qui sont sur le terrain chaque jour pour produire du contenu. Mais je n'ai jamais reçu un financement quelconque de l'État congolais. Comment je fais pour entreprendre, pour payer mes agents? Comment je fais pour subsister?
Parce que les bureaux.
Voilà, faut payer les bureaux, faut payer
les consommables.
Les consommables, il faut non seulement ça, il faut payer les impôts également, parce que on est donc soumis à ces régimes des impôts. Et du coup, vous allez voir que il y a même pas de réduction d'impôts parce que nous engageons des jeunes. Imaginez, j'ai plus ou moins 20 personnes qui travaillent avec moi, c'est-à-dire que derrière eux, je peux avoir plus ou moins 100 personnes qui sont là, qui vivent de ce que ces jeunes gens gagnent, des Environ News. Mais je n'ai pas ce soutien du gouvernement. Alors, c'est pas pour autant que je vais me décourager.
Les bras,
voilà.
Décourager.
Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, j'essaie de travailler, d'avancer. Et c'est ce que nous faisons chaque jour pour montrer aux jeunes qu'il est capable d'entreprendre même sans les financements des partenaires. Vous imaginez que nous avons commencé en 2013 avec un petit magazine et aujourd'hui nous avons une chaîne de télévision qui émet 24 heures sur 24.
Et une édition sur Internet aussi.
Et une édition sur Internet, nous avons un site web qui est opérationnel que vous pouvez consulter d'ailleurs. Et du coup, vous comprenez que si on attendait que les gouvernements nous donnent des moyens, on n'allait pas avancer, on n'allait pas faire quelque chose. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est juste avec mon argent qui vient de mes autres consultances ou encore des petits financements que j'ai pu trouver à gauche, à droite pour des services que je rends aux tierces qui me permettent de prendre en charge mon entreprise et les personnels. Donc moi, je vous encourage à ne pas vous décourager parce que vous n'avez pas le soutien du gouvernement, mais il faut que le gouvernement comprenne que vous avez besoin du soutien et vous avez démarré quelque part. Aujourd'hui, si le gouvernement va identifier les médias qui sont des médias à impact comme Environnews, et se dire, voilà, il y a un média qui existe, je peux donner de l'argent, parce que c'est quelque chose qui existe déjà.
Oui.
Voilà.
Et le plus important aussi, il faut se renseigner, se documenter, parce que certainement, il y a aussi des opportunités de financement de toutes les façons.
Exactement.
Même si elles ne sont pas étatiques, il y a des financements, des bailleurs des fonds.
Exactement.
Voilà donc.
J'en ai moi-même aussi un témoignage, parce que, comme je l'ai dit à l'entame de notre émission, ceux qui se considéraient comme des journalistes politiques, je suis peut-être mieux que eux. Donc, je reçois au moins chaque année la possibilité de sortir de mon pays pour aller couvrir des activités à l'extérieur du pays. Ce n'est pas avec l'argent du gouvernement, c'est l'argent les financements des bailleurs qui ont compris le travail que j'ai fait et qui se disent, voilà, ces gars, ils peuvent partir couvrir tel COP, ils peuvent partir dans tel pays pour faire ceci. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis qu'il y a toujours des opportunités qui peuvent s'offrir dès lors qu'on est déterminé à faire mieux.
Oui, mais Alfred, lorsqu'on quitte Kinshasa, bon, il y a des initiatives hein, au niveau de la ville de Kinshasa, à Goma, mais quand vous allez par exemple en Mbandaka, vous voyez que les jeunes sont vraiment en face de beaucoup d'opportunités, mais qu'ils ne saisissent pas.
Effectivement, il y a un problème de l'information. Voilà, je pense que c'est la question la réponse que je peux donner à la question comment promouvoir. La première des choses, il faut mettre à la disposition de ces jeunes l'information. Voilà, il existe aujourd'hui des métiers que nous pouvons considérer comme des métiers verts. Ces métiers voudraient que vous puissiez faire ceci, faire cela. En ce moment-là, les jeunes peuvent facilement sauter sur les opportunités et s'y lancer. Dès lors que ces jeunes ne sont pas informés, c'est difficile. Vous savez, comme vous et moi, nous savons tous que les métiers avec lesquels nous avons grandi, c'est dans les bureaux. Ça, nous savons tous.
Oui.
Quand j'étudie, j'ai fini, j'ai besoin de trouver le travail dans les bureaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, nous devons comprendre que le travail n'est pas seulement dans les bureaux, mais le travail peut être dans la forêt. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous organiser. Comme je l'ai dit, je suis en train de produire un documentaire que j'ai intitulé l'agro-business des jeunes. Et ici, j'ai trouvé des jeunes ici à Kinshasa qui font un travail formidable, sincèrement formidable. Et je pense que si Dieu fait grâce et que ces documentaires seront disponibles, les gens vont découvrir l'autre face des jeunes Quinois qui s'emploient aujourd'hui à générer des travails, à générer des emplois eux-mêmes, sans pour autant attendre que le gouvernement vienne à leur aide. J'ai découvert un jeune qui transforme les pondous, qu'il a appelé Kaleji. Il transforme ces pondous qu'il envoie à l'extérieur du pays. Mais quand tu vois déjà l'emballage, la manière dont les pondous, voilà, les conditionnements est fait, non, crois-moi, même si moi je suis à l'extérieur du pays, j'aurais envie de consommer ces pondous-là chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est bien fait. Mais ces jeunes n'ont pas reçu les financements de qui que ce soit. C'est seulement les idées sont là et ils se lancent un défi et ils s'y mettent et voilà, les choses marchent. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont là. Voilà pourquoi moi, dans ma chaîne de télévision, j'ai une émission qui s'appelle Métiers Verts, où nous essayons de mettre en lumière les différents métiers qui existent. Aujourd'hui, il y a par exemple l'émergence d'un métier qui s'appelle l'aquaponie. Il y a par exemple ceux qui sont dans les domaines de l'aviculture. Donc, bref, il y a beaucoup de métiers qui n'existaient pas dans le temps ou qui méritent
d'être valorisés.
Exactement.
Fait. Parce que quand vous allez dans nos beaches, par exemple, le soir, les poissons frais qui ne sont pas conservés pourrissent alors qu'on peut développer une filière de séchage de ces poissons-là.
Exactement.
Oui. Dites-nous un peu dans le parcours, quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes lancé et aujourd'hui, comment ça évolue, bien que c'est difficile hein?
Sincèrement, c'est un parcours jonché de beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Entreprendre au Congo, ce n'est pas très facile, mais déjà entreprendre dans un domaine où vous êtes vous-même étranger, c'est encore pire. Je suis journaliste politique, je n'ai aucune connaissance en environnement. Je me retrouve en 2013 sans repère, parce que devant moi, je n'avais pas de personnes qui pouvaient m'encadrer. Je devrais frayer moi-même un chemin. Et imaginez, donc, j'ai commencé à apprendre l'environnement sur l'État. Je ne suis pas un environnementaliste, je vais bien le préciser, mais je suis un journaliste environnemental. J'ai de très bonnes connaissances sur le domaine, dans le domaine de l'environnement, et c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de mes collègues pensent que je suis le précurseur de cette discipline, le journalisme environnemental en RDC. Et grâce à ces efforts, nous sommes parvenus à former d'autres journalistes qui aujourd'hui font le même travail que ce que je fais aujourd'hui. Et je suis à la tête d'un réseau de journalistes environnementaux qui s'appelle Green Journalist Network, qui regroupe une quarantaine de journalistes à travers la RDC.
Dont je fais partie.
Dont tu fais partie d'ailleurs. Voilà. Donc vous comprenez que ça n'a pas été facile, mais il y a des défis à relever. Nous les avons relevés jusqu'à arriver à cette étape où nous sommes. Et voilà, nous sommes en train d'avancer petit à petit avec l'aide de Dieu. Voilà.
Oui, mais ici aussi à Kinshasa, Alfred, le constat est que les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la conservation de la nature, ils sont dans la transformation de sachets plastiques, assainissement. Les jeunes n'ont pas l'essence d'explorer d'autres spécialités. C'est le constat qui se dégage, au fait.
Effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas la disponibilité de l'information. Voilà pourquoi j'essaie de marteler sur l'information. Vous savez, aujourd'hui, si nous pouvons démontrer aux jeunes qui nous avouent, d'abord, la RDC, c'est 70% de la population active de la RDC est composée des jeunes. Donc, vous comprenez que la jeunesse représente une force. Si aujourd'hui nous parvenons à montrer ou démontrer aux jeunes que, voilà, il y a des opportunités qui s'offrent dans tel secteur, ils sont prêts à s'y lancer. Ils sont prêts à embrasser ces secteurs-là et développer des idées. Donc voilà pourquoi moi j'ai toujours encouragé les jeunes à pouvoir s'y lancer, à chercher l'information. Nous ne sommes plus à l'époque où l'information était cachée. L'information, elle est là. Elle est disponible dans les réseaux sociaux. Elle est disponible
sur Internet,
voilà.
Sur Google.
Exactement. Donc, on n'a pas besoin d'attendre seulement que la radio Capi vous dise qu'ils n'ont allez faire ça. Mais si on est déterminé, on peut découvrir beaucoup d'opportunités qu'il y a. J'étais à Mampou il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert qu'il y a toute une filière qui s'est installée où on peut trouver beaucoup de produits issus de l'agroforesterie.
Oui,
Il y a les makala, il y a les miels, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et vous constatez
même
là...
Même dans les miels, beaucoup de sous-produits.
Exactement. Donc, et c'est toute une économie qui s'est installée à Mampou où quand vous vous entretenez avec les communautés, vous dites, nous sommes à l'aise de vivre de ces activités parce que je gagne. Moi, j'ai trouvé des personnes qui ont acheté des taxis Kedge qui sont là. Donc, vous comprenez qu'il y a des opportunités dans ces domaines de l'environnement, mais que les jeunes n'ont pas encore découvert. Voilà pourquoi nous sommes là pour les sensibiliser.
Si ce sujet vous intéresse, Que faut-il faire pour encourager le jeune Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat visant la protection des forêts du bassin du Congo? Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Boumediene, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis.
S'il vous plaît, réduisez les volumes de la radio. Éteignez la radio, ça risque d'altérer la qualité de la communication. Est-ce que c'est fait? Voilà, Boumediene.
Maintenant, ça va.
Oui, maintenant, je vous écoute très bien. Allez-y.
Oh oui, je viens de suivre ce que l'invité vient de le dire. Je l'encourage puisqu'il est journaliste, il s'est lancé dans un domaine qu'il ne connaissait pas, il est sincère avec lui-même. Ça, c'est la qualité que le Congolais ne donne pas. C'est quoi, je vais dire, c'est que mon professeur de Lubumbashi avait dit pour les polluer, et nous sommes là pour les aider à commencer à polluer. C'est ce qui s'est fait à Lubumbashi avec nos sociétés minières. Si vous constatez à Lubumbashi, vous allez voir que les entreprises minières sont en train de polluer toutes nos villes du Grand Katanga. Et maintenant, pour accéder à avoir un champ, il est difficile et terriblement difficile d'avoir un champ. Un hectare revient à 1 500 $. Mais comment allons-nous aider notre environnement à être en bon état? Je pense bien que là, c'est l'État qui devrait nous aider. Puisque moi-même, j'ai un champ. Je ne sais pas comment évoluer, puisque je suis bloqué. Et il faut abattre les arbres et commencer à cultiver comme c'est déjà le mois de septembre ici. Je pense bien que nous devons commencer d'abord par nos propres sociétés minières qui sont en train de polluer ici et voir ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup.
Mais dites-nous, Boumediene, est-ce qu'il faut tout attendre de l'État?
Il ne faut pas tout attendre de l'État. Moi, je dis pour accéder à un champ. Ce sont les chefs coutumiers, les chefs de territoire qui nous compliquent. Mais pourtant, je viens de suivre que je sais bien que la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État.
Oui.
Mais si les chefs coutumiers nous compliquent, comment allons-nous entreprendre nos activités pour que notre société soit verte?
Mais est-ce que les domaines, les créneaux de métiers verts vous intéressent?
Nécessairement, effectivement, je suis intéressé par ce métier-là.
Merci beaucoup, Boumediene. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous avez pris la parole. Allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Justin, à qui nous disons bonjour.
Qui est à qui? Bonjour à notre invité qui est au plateau de la radio Okapi.
Allez-y.
Oui, Tati, par rapport en tout cas à la thématique qui est très pertinente, oui, à ce qui concerne l'entrepreneuriat au Congo, je pense que notre État, aussi parfois, il parvient à décourager les jeunes entrepreneurs suite aux taxes. Donc, il y a beaucoup de taxes dans la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui commence une activité, il lance une activité commerciale ou une activité agricole, mais vous allez voir, il y aura beaucoup de taxes. Et puis, cette personne, il va se décourager et il va maintenant aller aussi chercher. Il laisse son travail là pour aller maintenant dans des ONG. Alors, je demande en tout cas que les gouvernements, que l'État puisse diminuer. Et puis, c'est comme un slogan, M. Tati. On dit que non, on va réduire toutes certaines taxes, mais c'est un slogan. Mais jusque-là, en tout cas, rien ne s'affiche. Oui, loin de ça. Moi, je vois ici à Bounia et partout ailleurs, il y a en tout cas des jeunes entrepreneurs. Quand il y a des jeunes entrepreneurs...
Des jeunes entrepreneurs qui sont dans les métiers verts, qu'est-ce qu'ils font comme activité?
Oui, ils sont en tout cas, il y a beaucoup de métiers. Parfois, ils créent son activité agricole.
Okay.
Et puis, ils vont semer, il y a les semences, il y a l'arachide, ou bien les haricots, ou bien une activité commerciale.
D'accord.
Mais notre État, avec des taxes, mon cher Tati, et puis les jeunes se découragent parfois, ils commencent à quémander à l'aide ménage des ONG, parce que c'est là où il n'y a pas de taxes. Et puis je ne sais pas quel mécanisme que notre État doit utiliser pour mettre fin, en tout cas aux taxes, pour encourager maintenant les jeunes. Je vous remercie et bonne journée à mon ami Pierre qui est à Ahou.
Merci beaucoup, Monsieur Justin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Goma, Alfred, pour donner la parole à Jean-Marie, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur le journaliste.
Allez droit au but. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler?
Oui. En tant que jeune, moi-même, je suis jeune. Par rapport au sujet du jour, je suis en train de vous dire que le jeune arrive à se décourager à certains services, c'est à partir du traitement de leur chef. D'abord, vous allez comprendre qu'il y a une maltraitance de leur état d'esprit. Et après cela, il y a aussi la maltraitance au niveau gouvernemental. Lorsqu'ils cherchent à aider le pays, vous verrez que la hiérarchie aussi est en train aussi de maltraiter leur chef. Alors, lorsqu'ils maltraitent leur chef, le chef aussi maltraite les subalternes. C'est pour cela que vous voyez que la jeunesse est en train de se décourager à servir aussi les pays.
Oui, mais Jean-Marie, je vois à Goma beaucoup d'initiatives dans le cadre des métiers verts à Goma. Il y a par exemple des jeunes qui sont dans la transformation, dans la fabrication des jus, conditionnement. Il y a plein d'activités dans ces créneaux-là au niveau de la ville de Goma.
Bon, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Nous, la monnaie que nous utilisons est congolaise. Mais ici, nous voulons dépendre aussi de ce qui n'est pas le nôtre. Mais vous devez comprendre que vous devez faire les efforts. À partir de nos travaux que nous sommes en train de fournir en tant que jeunes, vous devez aussi nous faciliter à ce que nous puissions utiliser notre monnaie et aussi à ce que nous puissions être bien traités à partir de notre état d'esprit. Parce que nous produisons trop de travaux et on est maltraités. Vous voyez, on fait trop, mais on gagne peu. C'est à partir de ça.
Merci beaucoup Jean-Marie. Je rappelle que c'est depuis la ville de Goma que vous intervenez. Alfred, M. Justin de Bounia, il a décrié au fait le fait de trop de taxes et impôts et cela décourage les jeunes.
En tout cas, M. Justin a vraiment raison et nous espérons que c'est notre souhait à tous que l'État puisse améliorer le climat des affaires. Parce que, vous savez, entreprendre au Congo, sincèrement, il faut avoir des nerfs solides pour entreprendre et réussir, sinon vous allez fermer. Moi, j'ai connu ces problèmes où à chaque fois, chaque 3 mois... vous avez des agents de l'État qui passent dans les bureaux pour vous dire il faut payer ça. Mais dans l'entretemps, vous vous rendez compte que vous n'avez pas trop de revenus. Comment allez-vous continuer à payer ça?
Alors que les entrées...
Les entrées, il n'y en a pas.
Oui.
Donc voilà, c'est un défi. Et je pense que c'est aussi le rôle des journalistes de pouvoir parler de ça. Inviter les autorités à prendre en considération cette réclamation. Elle est vraiment fondée. Elle est vraiment utile parce que nous devons améliorer. L'État doit améliorer les conditions de travail. Sinon, il doit améliorer le climat des affaires pour permettre à ce que les jeunes entrepreneurs qui n'ont absolument rien. Parce que lorsqu'on parle des jeunes entrepreneurs, c'est des jeunes qui viennent de l'école ou bien des universités, qui n'ont pas de soubassement en termes de finances, qui n'ont pas de fonds de démarrage et avec des idées, se disent voilà, je vais faire ça. Mais quelqu'un qui vient comme ça, vous commencez déjà à les rançonner, c'est très décourageant. Ailleurs, on a vu par exemple, je voudrais pas citer le nom d'un pays voisin ici, où lorsque les jeunes ont des idées ou lorsque les jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on leur accorde 2 ans sans payer les taxes, sans payer les impôts, pour leur permettre de s'installer. Et aujourd'hui, nous envions presque tous ce qui se passe dans ces pays parce que, voilà, on a vu des jeunes qui émergent. Ils émergent parce que leur gouvernement les soutient. Le soutien dont nous avons besoin ici, ce n'est pas seulement l'argent, mais le fait déjà d'améliorer le climat des affaires pour les jeunes. Faire en sorte que les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat puissent se sentir soutenus par leur État, c'est déjà quelque chose de plus grand. Mais quand on n'en a pas, en ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il faut entreprendre? Je préfère alors travailler chez quelqu'un. Et là, je reviens sur ce que notre collègue, notre ami de Goma a dit. Nous avons un état d'esprit déjà affecté par ceci, par cela. Oui, pourquoi? Parce que il ne peut pas entreprendre au risque de se retrouver à zéro après une année.
Oui, mais en fait, au-delà de ça, il y a ceux-là qui réussissent aussi, même s'il y a des difficultés.
Bien sûr, bien sûr. Je suis les cas qui... Je suis moi-même un exemple concret, un exemple concret de ce que vous dites, monsieur Tati. Donc, ce n'est pas parce que on n'a pas ce soutien que nous allons croiser les bras. Mais nous allons les faire. Nous allons nous y mettre avec le peu de moyens et avec beaucoup de stratégies. On essaie un peu de sortir du lot.
Oui, parce que je peux ne pas avoir de l'argent pour investir dans les projets. Si j'ai les idées, je peux approcher quelqu'un qui a les finances et puis ensemble, en partenariat, nous lançons le projet.
Vous savez, Tati, moi quand j'ai lancé Environnews, je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien, je vous dis bien rien. Je venais de perdre mon travail dans une agence de communication là où j'ai travaillé. Je n'avais rien. Mais j'avais quand même ma petite voiture qui me permettait de faire les courses à la maison. Je me suis dit, je ne vais pas chercher du travail ailleurs, je vais créer ma propre boîte. Qu'est-ce que je faisais? Chaque soir, parce que je n'avais pas de documents comme taximen, mais chaque soir, autour des 18 et 19 heures, je faisais les taxis Kinshasa, gare centrale qui est un beau magasin, et le peu d'argent que je gagnais entre 18 heures et 22 heures me permettait de nourrir ma femme et mes enfants, me permettait de scolariser mes enfants, et pendant ce temps, je travaillais sur mon projet. Donc, tout est parti comme ça. Donc, quand je commençais à produire, les gens ont vu ce que je faisais, mais ils se disent, mais c'est quand même meilleur ce que vous faites par rapport aux autres. Et tout est parti comme ça. Donc, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de capital pour démarrer. Donc, et après plus ou moins 5-6 mois, j'ai arrêté avec les taxis et je me suis concentré sur mon travail. Et de 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes.
Oui, et nous reprenons Jean-Marie de Goma qui a un complément d'information à nous donner. Jean-Marie, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je voudrais encore ajouter, c'est quoi? Nous avons beaucoup de volets de nos soucis qui n'ont pas encore de réaction jusque-là au niveau de l'État. Parce que je suis un jeune, je peux me débrouiller avoir mes 50 000 francs pour commencer peut-être un soubassement. Mais vous verrez quelque chose que je vais commencer qui va me taxer à un capital de 50 dollars pendant que moi j'ai les 50 000 francs. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux engager des moyens pour me procurer un engin, mettre en transport. Maintenant, où est-ce que je vais tirer maintenant les fonds de démarrage de cet engin? Vous voyez que au niveau de l'État, nous avons encore un très grave problème qui a causé un chômage déguisé et un chômage élevé au niveau du pays.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie de la ville de Goma. Alfred, il y a aussi la dimension connaissance sur les notions d'élaboration et évaluation de projet, parce qu'il ne faut pas s'élancer les yeux fermés.
Oui, il y a cette dimension qui doit intervenir, mais moi, je voudrais peut-être dire le contraire de ce que moi je fais. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas eu toutes ces connaissances-là avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Sincèrement, je n'ai pas eu toutes ces connaissances. Voilà, il faut avoir un projet, il faut l'évaluer, il faut écrire un projet, voilà, avoir un business plan. Sincèrement, quand j'ai lancé Environnews, je n'avais aucun business plan, aucun. Moi, j'avais juste des idées. Et je me suis lancé, et voilà. Toutes les connaissances, je les ai eues en cours de chemin. J'ai commencé à apprendre comment est-ce qu'on élabore un business plan, comment est-ce qu'on élabore un projet, comment on peut l'évaluer. Donc, tout ça, j'ai commencé à prendre sur l'État, comme je l'ai dit. J'ai commencé à prendre pendant que j'exerçais déjà en tant qu'entrepreneur. Donc, cela ne doit pas être une condition. Mais c'est aussi bien, si quelqu'un a déjà ses connaissances au début, ça peut déjà l'aider à savoir dans 10 ans, je serai quoi. Mais cela ne doit pas être une condition sine qua non pour que vous puissiez démarrer l'entrepreneuriat. Moi, j'encourage les jeunes à faire comme moi. lancez-vous et continuez à avoir. Vous allez découvrir beaucoup de difficultés qui seront devant vous et vous trouverez des moyens pour les surmonter et avancer. Voilà.
Et on peut aussi, les jeunes aussi peuvent aussi, ils peuvent aussi se regrouper, hein, se
bien
regrouper
sûr, bien
deux
sûr,
trois personnes
bien
pour
sûr.
Crier, lancer.
J'en connais autant qui sont. Je connais un jeune qui s'appelle Maximilien Kungana qui sorti fraîchement de l'université de Kinshasa a trouvé des idées innovantes pour produire les composts. Mais ils ne pouvaient pas les faire seuls. Ils se sont regroupés en trois ingénieurs qui venaient tous de
l'université.
Voilà, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à produire les composts. J'ai réalisé un reportage sur le travail qui était vraiment un travail formidable. Voilà, donc on a besoin de ce genre d'initiatives parce que parfois, seul, vous avez des difficultés pour démarrer. Mettez-vous à deux, mettez-vous à trois, à quatre et chacun avec ses idées. Peut-être parmi les quatre, une personne peut avoir $15 et l'autre peut avoir $10. Si vous mettez ensemble l'argent, voilà, vous pouvez démarrer quelque chose et ne cherchez pas à démarrer quelque chose qui est plus costaud. Parce que ça risque d'être lourd pour la suite.
Pour faire tourner la machine.
Voilà. Trouver quelque chose qui est simple, que vous pouvez faire facilement, sans vous demander beaucoup de moyens, sans vous demander beaucoup d'investissement. Et au fil du temps, vous aurez le temps d'investir dans d'autres choses. Voilà.
Et dites-nous, Alfred, là, on est presque à la fin de notre émission. Est-ce que, je répète encore ma question, est-ce que il y a beaucoup d'ouvertures dans le secteur des métiers verts ici en RDC? Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes?
En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Il y a beaucoup d'opportunités. J'ai donné des exemples de jeunes qui font les composts. J'ai donné des exemples de jeunes qui sont dans l'apiculture. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Il suffit seulement de prendre un peu du recul par rapport au métier traditionnel que nous connaissons tous. Que voilà, je dois être un ingénieur et travailler dans un bureau. Je dois être ceci. Mais c'est dire, est-ce que dans les domaines des forêts, y a-t-il des emplois? Oui, il y a des emplois. Je connais des personnes qui, lorsqu'ils ont quitté l'université, ils se retrouvent à Mandaka pour travailler dans la forêt. Et ils sont là. Je connais des personnes qui sont des avocats de grande qualité, mais qui se sont retrouvés dans la forêt pour travailler sur les questions de lois liées à la gestion des forêts, par exemple.
Oui.
Et là, il y a des créneaux comme ça.
Il y a des passerelles partout.
Exactement. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes. C'est question de se dire, voilà, moi j'ai étudié, j'ai des connaissances, alors je vais chercher dans les domaines de l'environnement, dans les domaines des forêts, je vais trouver qu'est-ce que je peux faire avec les connaissances que j'ai acquises au niveau de l'université.
Ouais, et nous qui sommes dans le média, parce que nous ne parlons pas de nous souvent, c'est l'occasion de faire allusion à nous qui sommes dans le média.
Mais
est-ce que pour nous aussi il y a des ouvertures?
Mais déjà vous avez une voilà. Donc non, vous savez Tati, je suis très fier aujourd'hui de constater que après moi il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ce domaine du journalisme environnemental et qui ont développé de très bonnes connaissances. Je suis fier parce que aujourd'hui, si vous invitez Tati sur le plateau de la télévision, parler des questions d'environnement, il va vous raconter des histoires vraies qu'il a vécues, des reportages qu'il a réalisés qui ont impacté. Et ça, ce n'est pas, voilà, ça n'a pas existé il y a peut-être 10 ans passés.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, moi, c'est ma fierté. Parce que je me souviens encore en 2015-2016, j'ai reçu un financement de l'UNESCO qui m'a permis de former 27 journalistes. Et c'est tout le déclic est parti de là. Donc, grâce à ces 27 journalistes qui ont été formés en RDC sur les questions d'environnement et développement durable, ils se sont tous lancés dans les domaines, ils ont découvert. Comme je l'ai dit, il faut amener l'information.
Donc c'est pour souligner qu'il n'y a pas le financement, il n'y a pas que l'État qui peut le rendre disponible auprès
Exactement.
Des jeunes. Il y a des organismes internationaux
Exactement.
Qui peuvent appuyer les bonnes idées.
Voilà, donc c'est question d'avoir des idées et discuter de ces idées avec les différentes personnes. On ne sait pas qui peut financer ces idées. Donc moi j'avais une idée je me suis dit, j'ai fait une analyse du secteur, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de journalistes environnementaux, je suis presque seul. Alors l'UNESCO, est-ce que vous pouvez appuyer une formation pour les journalistes qui sont là. Et l'UNESCO a appuyé, j'avais reçu un financement de plus ou moins 15 000 euros qui m'a permis de former des journalistes. Et aujourd'hui, nous avons une grande panoplie de journalistes environnementaux dont je suis très très fier. Quand vous regardez des grands médias comme Actualité.cd qui finalement a mis en place un desk d'orienter donc à l'environnement. Je me dis, je suis fier parce qu'aujourd'hui, j'ai contribué à l'émergence des médias environnementaux qui n'existaient pas il y a 10 ans. Voilà, aujourd'hui, nous avons des médias environnementaux et presque tous les médias aujourd'hui, il y a des journalistes spécialisés dans la question de l'environnement. Mmh. Donc, il y a des opportunités. Aujourd'hui, je peux voyager. Beaucoup de gens pensent que je l'ai fait de trop, que je suis pas beaucoup à Kinshasa, je suis à l'extérieur. Non mais c'est à cause du travail. Voilà. C'est à cause du travail.
Nous le considérons comme votre dernier mot. Alfred Toumba, nous rappelons que vous êtes directeur général d'EnviroNews, un média spécialisé sur les questions de l'environnement et développement durable. À la prochaine occasion, ce n'est qu'une partie remise.
Avec plaisir. Avec plaisir, Tati.
C'est par ici que s'achève Okapi Service de ce jour que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Ematoua qui l'a coordonné et supervisé. Sarah Soumbel a été à la réalisation et Jean-Noël Mokondo a assuré la prise de son. Prenons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Okapi Service. Bonne condition d'écoute des programmes de Radio Okapi.